Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne.
Écologie,
économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mégaphone où nous allons parler des mobilisations contre les coupes budgétaires de la région Pays de la Loire concernant la solidarité, les sports et la culture. -73 à -100%, c'est ce qui est annoncé par Christelle Morançais et sa majorité. Ce sont des pans entiers conséquents du secteur associatif qui sont désormais menacés. 15 à 20 000 emplois qui vont dépendre du prochain vote du budget le 19 décembre prochain. Face à cette menace, environ 3 000 acteurs de la culture se sont rassemblés lundi dernier devant le Conseil régional. La Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, elle-même menacée de disparition, était présente via un plateau où nous avons convié le mouvement associatif des Pays de la Loire, la Fédération des acteurs de la solidarité, des représentants des filières régionales livres, musique actuelle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission en podcast sur le site de Jet FM ou sur celui de la Frappe. Pour compléter, je vous propose d'écouter aujourd'hui quelques sons glanés lors de la mobilisation auprès de manifestants puis de personnalités politiques qui faisaient partie du cortège. On commence tout d'abord par écouter quelques paroles recueillies par Quentin Beltoise en service civique à la rédaction de Jet.
Camarades, la décision de Christelle Morançais de baisser les subventions de la culture à plus de 70% ne s'inscrit pas dans n'importe quel contexte. Elle est longue, la liste des attaques contre le monde du travail et de la culture de ces dernières années.
Le monde de la culture nantaise se rassemblait ce lundi 25 novembre à 8h30 devant l'hôtel de la région pour protester contre les coupures annoncées par la présidente de région, Christelle Morançais. Parmi les personnes présentes, on compte responsables d'associations, techniciens, mais aussi artistes, notamment musiciens.
Je m'appelle Antoine Soutif, tout simplement, je suis chanteur et bassiste d'un groupe nantais, j'habite à Nantes depuis 7 ans, et je suis là ici parce que tout simplement je trouve ça absolument dégueulasse comme mesure, et on n'a pas à se priver de dispositifs comme ça qui vont en faveur de la culture, et c'est extrêmement important, et notamment dans mon cas par exemple, j'ai pu avec des amis enregistrer tout un album et ensuite faire une tournée dans toute la région nantaise, et même la région des Pays de Loire, grâce à l'argent de la région, justement. CLAP, un dispositif régional, justement, qui permet de mettre de l'argent à disposition sous présentation de dossiers pour tout type de projet, que ce soit de la peinture, des prestas live, de la musique, justement, des albums et tout plein d'autres choses, quoi. Et donc, ça serait vraiment dommage qu'on se prive de ce genre de dispositif et aller à la culture, hein.
Si le comité local d'aide au projet, ou CLAP, est un dispositif de la ville de Nantes et non de la région, les partenaires de ce dispositif qui accompagnent les bénéficiaires, comme Trampo, touchent pour la plupart des aides financières de la région pour fonctionner correctement. Les membres du groupe d'Antoine ont pu avoir accès notamment à un coach vocal et une coach scénique, prestations qu'ils n'auraient pas pu se permettre sans cette aide. Outre les travailleurs du secteur, certains manifestants, comme Andrei, étaient là en soutien, fiers du rayonnement culturel de leur ville.
Alors du coup, moi je suis restaurateur et j'attache énormément d'importance à la culture parce qu'à la base je viens du milieu de l'art plastique, j'ai fait une licence d'art plastique et ensuite j'ai fait travailler dans le milieu un petit peu culturel et de l'événementiel. Et c'est vrai que du coup, là, actuellement les temps sont compliqués, on n'a pas spécialement d'opportunités d'emploi et autres. Et donc actuellement je suis serveur par rapport à ça parce que je dois rembourser des prêts et tout. Et l'avantage qu'a les subventions qui sont faites par la région, c'est que ça permet justement de financer des spectacles ou des concerts ou ce genre d'événements et qui sont des lieux qui sont excessivement importants pour moi parce que ça me permet justement de me reposer, de rencontrer du monde et de participer à la vie justement culturelle nantaise qui m'est très importante et qui a toujours fait l'histoire de Nantes et ce pourquoi les gens connaissent la région nantaise. Et je trouve ça dommage qu'on supprime autant d'investissements pour ce qui fait le rayonnement principal de Nantes. Et je veux même à l'inverse, moi je serais plutôt même qu'on redonne encore plus d'argent à ces milieux-là et qu'on soit plutôt vu comme des pionniers du monde culturel et qu'on donne, enfin qu'on soit des modèles justement pour les autres villes, plutôt qu'on continue à saboter ce système-là et qu'au final on reste dans des villes qui sont aseptisées de toute culture, de tout moyen d'expression.
Ces lieux de vie, comme les cafés culture, risquent de réduire également leur nombre d'invités de par la baisse du GIP, un fonds d'aide régional mis à disposition de ces cafés culture pour rémunérer les artistes, même lorsque la soirée n'est pas rentable pour le lieu. Si les aides de la région bénéficient aux aspirants créateurs et aux citoyens de la ville, c'est aussi une plus-value éducative pour nos chères petites têtes blondes, grâce au dispositif d'éducation artistique et culturelle, faisant partie des prérogatives de nombreuses associations nantaises.
Alors, je m'appelle Camille, moi je suis médiatrice culturelle pour une salle de concert qui s'appelle Panonica, qui est dédiée au jazz et aux musiques improvisées. On est situé à côté du marché Talensac. Nous, on a un label, on est scène de musique actuelle. En fait, c'est le même label que Stéréolux, sauf qu'on a vraiment la spécificité de jazz et musiques improvisées. Et en gros, on a un cahier des charges avec trois grands axes. C'est la diffusion, donc la programmation de concerts, l'accompagnement des équipes artistiques et aussi l'action culturelle. Donc ça, c'est mon volet. Moi, je m'occupe de tout le volet action culturelle. On n'a pas, ce que je disais, une confirmation pour le moment de la baisse budgétaire de la région officielle. On s'y attend. Et du coup, nous, c'est un financement à hauteur de 40 000 euros. Dans ces 40 000 euros, moi j'ai un fléchage pour les projets que je mène à destination des lycées, notamment en partenariat avec JETS régulièrement. Et effectivement, s'il n'y a plus cette enveloppe-là, moi je ne peux plus faire de projets avec les lycéens et les lycéennes. Voilà, donc c'est assez dramatique. Puis on en discutait évidemment avec les équipes pédagogiques. C'est un impact forcément direct sur les élèves, c'est un impact forcément direct sur les partenariats, sur du coup les partenaires JETFM qui ont tout un projet aussi, Sonolab, qui est dédié à l'éducation aux médias. Et c'est des partenaires privilégiés pour imaginer des projets qualitatifs, enfin, qu'on essaye de penser de manière évidemment qualitative, et qui ont plein de bénéfices à destination des élèves, la découverte, l'ouverture d'esprit, la création de liens sociaux, la découverte aussi des métiers journalistiques, la découverte d'esthétiques qui ne seraient pas amenés à écouter, d'une économie qu'ils ne connaissent pas forcément, du fonctionnement du salle de concert, enfin bref. Du coup, c'est pour ça qu'on est là ce matin, pour défendre tout ça.
Parmi les autres structures concernées par ces coupes de subventions, on compte pêle-mêle, et de manière non exhaustive, la Folle Journée, le Festival Les Escales, le Festival du cinéma espagnol, le Festival des Trois Continents, le Cinématographe, la Revue 303 ou encore la Maison Julien Gracq.
Nous ne devons pas nous laisser faire et nous devons reprendre en main notre démocratie. La démocratie, c'est quoi ? C'est décider collectivement et de consentir à participer par nos cotisations, par notre impôt, au bien collectif, à la collectivité, mais c'est aussi et surtout comment on redistribue cet argent. Et aujourd'hui, on veut arrêter de redistribuer cet argent aux multinationales en leur faisant des cadeaux, et on veut redistribuer l'argent à la solidarité, à la création, à la lutte contre les violences faites aux femmes, à l'éducation. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est notre combat à toutes et tous. Alors oui, on va continuer à batailler dans la rue ici, mais aussi à l'Assemblée nationale. Où on va continuer.
Karine Daniel, sénatrice de Loire-Atlantique.
Guillaume Garot, député de la Mayenne et président du groupe du Printemps des Pays de la Loire, ici au Conseil régional.
On voit toutes les conséquences des mesures d'économie telles qu'envisagées par Christelle Morançais pour la région Pays de la Loire. Un des arguments qu'elle avance, c'est qu'elle n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'euros en moins pour la région Pays de la Loire, plus des baisses de recettes attendues, notamment sur la TVA. Comment est-ce que vous partagez ce diagnostic d'une nécessaire économie de l'ordre de minimum 60-70 millions d'euros pour 2025 pour la région Pays de la Loire ?
D'abord, la discussion budgétaire, elle n'est pas terminée. On œuvre au Sénat pour que l'effort qui soit demandé aux collectivités territoriales soit moindre que celui qui est annoncé au projet de loi de finances initial. Si c'est le cas, ça aura des répercussions pour les budgets des régions, des départements, des métropoles. Et donc, il faut avancer dans la discussion budgétaire et ensuite, les collectivités auront à se positionner sur leurs choix. Pour ce qui est annoncé, la présidente de la région va au-delà de ce qui est annoncé en première intention. Donc là, il y a bien un choix politique qui vise à cerner des secteurs, la culture, la vie associative, l'égalité homme-femme, l'environnement. Donc ce sont bien des choix politiques et non concertés qui sont faits par la région des Pays de la Loire.
Parce que quand on entend donc 40 millions, c'est le prévisionnel et c'est en négociation. Quand est-ce qu'on aura des réponses, des éléments de réponse sur les négociations au Sénat, sur la partie Sénat, sur les baisses de dotation de l'État vers les collectivités régionales ?
Alors, Le budget au Sénat sera voté le 12 décembre et donc il repartira ensuite à l'Assemblée nationale. Et là, il y aura probablement des conditions de discussion qui sont très liées à la situation politique nationale à l'Assemblée.
Karine Damiel, comment est-ce que vous percevez du coup le choix politique de Christelle Morançais de couper drastiquement les crédits attribués à la culture, à l'économie sociale et solidaire et au sport ?
C'est un choix très clivant qui met en difficulté des acteurs. On ne peut pas gérer des structures, on ne peut pas gérer des compagnies avec de telles coupes qui sont radicales. Donc c'est un choix qui est très idéologique. Et puis c'est un choix aussi qui va à l'encontre de ce que porte Madame Morançais sur la dynamique de l'économie des Pays de la Loire, parce qu'il faut considérer que le secteur culturel est un secteur qui, à part entière, fait partie et contribue à la dynamique économique des Pays de la Loire en termes d'emploi, en termes de dynamique des territoires, en termes de production et de diffusion. Et ça aussi, il faut le considérer. Et moi, je me battrai pour que le socle commun soit toujours préservé, puisse se développer et qu'on favorise le vivre ensemble plus que la stigmatisation de secteurs économiques qui sont aujourd'hui dans la difficulté.
Alors, en tout cas, sur les baisses de recettes, pour vous, annoncées en parallèle des baisses de dotation, à ce stade, ça n'est pas assez significatif pour expliquer l'ampleur des coupes envisagées par Christelle Morançais.
C'est vraiment ça qui nous étonne et que personne ne comprend vraiment. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé avec l'ensemble des élus de l'opposition ici à Nantes au Conseil régional un audit des finances de la région pour savoir exactement où nous en sommes et quelles sont les perspectives.
Quelle réponse vous avez ?
Écoutez, je n'ai pas encore de réponse. On a formulé cette demande de façon récente, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas prendre des décisions comme ça dans l'urgence, dans la précipitation, en brutalisant les acteurs de la culture, du sport, de la solidarité, de l'écologie. Non, ça, c'est pas possible. Donc, ce que nous demandons, c'est d'abord, un report de la session budgétaire du mois de décembre, qui se tiendra le 19 et 20 décembre. Et puis, ce que nous demandons aussi, c'est qu'on reprenne le dialogue, qu'on n'impose pas les choses comme ça, mais qu'il y ait une vraie discussion, une vraie concertation entre la région, les instances autour de Madame Morançais, et puis ceux qui sont sur le terrain, y compris les maires d'ailleurs, les maires de nos communes. Donc aujourd'hui, le temps est venu du dialogue, le temps est venu de l'échange. C'est indispensable si on veut arriver à des décisions qui soient concertées et qui soient comprises.
Pour le moment, quel dialogue est-ce que vous avez en tant qu'élu régional, Guillaume Garot, avec vos collègues de l'opposition, avec aussi vos collègues élus macronistes ?
Alors, le dialogue entre nous élus, il est constant, heureusement, c'est un dialogue républicain. Mais ce qui est quand même notable et regrettable, c'est que lorsque nous, élus, nous demandons en commission à la région d'avoir des éléments, des chiffres, des écrits, on nous dit « Ah là là, circulez, il n'y a rien à voir, vous verrez bien au moment du budget. » Sous-entendu, vous verrez bien dans un mois ce qu'il en sera. Comme si finalement ce budget a été préparé en catimini, dans le secret du bureau de Madame Morançais, et que nous élus légitimes quand même, nous avons été élus pour travailler, c'est le sens de notre mandat, eh bien nous étions exclus de tout cela. Il n'y a vraiment aucune démocratie interne, il n'y a aucune capacité à dialoguer. Ce qu'on nous demande juste, c'est d'être là le jour de la session et de voter pour ou contre. C'est pas comme ça, franchement, qu'on gère une grande collectivité comme la nôtre.
Et ça, c'est inédit, ce manque de transparence sur un budget régional ?
Ah ben c'est pas inédit, hélas. C'est quelque chose qui s'aggrave, qui s'accentue ici, dans notre région des Pays de la Loire. Et franchement, ça donne vraiment le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, c'est la réalité d'une présidente qui est complètement coupée des réalités, qui décide toute seule dans sa tour d'ivoire et qui fait bien peu de cas de ce que sont les réalités de la vie sur nos territoires.
En tout cas, son budget doit quand même être voté par les élus. Pour le moment, est-ce que vous avez des estimations sur le rapport de force sur le vote de ce budget ?
Ah non, Vous savez, la discussion, elle n'a pas commencé, je vous disais. Donc on ne sait pas ce que pensent les uns et les autres.
Mais vous parliez aussi du dialogue constant avec les autres, et enfin les élus d'autres tendances politiques hein, que vous maintenez. Qu'est-ce qui se dit pour l'instant du soutien à l'actuel budget ?
Ben, je crois qu'il y a aussi au sein de la majorité des doutes, et c'est bien compréhensible, parce que ces élus régionaux sont aussi parfois des élus locaux sur d'autres responsabilités. Je pense en particulier à des maires qui se demandent bien comment ils vont pouvoir faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Quand vous avez une compagnie de théâtre, quand vous avez une association sportive qui sera privée des financements de la région, vers qui vont-elles se retourner ? Ben, inévitablement vers les mairies, vers les communes, en disant « mais nous, on n'arrive pas à faire face, aidez-nous ». Mais aujourd'hui, les communes, les mairies, les groupements de communes, ils n'arrivent plus à faire face. Pourquoi ? Parce que les budgets venant de l'État sont déjà très largement diminués, hein, et les maires nous l'ont dit au Congrès des maires la semaine passée, et puis parce que les demandes sont de plus en plus fortes, et les demandes dans tous les domaines. Hein. Hier, c'était la collecte des banques alimentaires, et on voit que la précarité alimentaire, elle ne cesse d'augmenter partout dans notre pays, y compris évidemment sur nos territoires. Donc les demandes sociales, les urgences économiques, rappelez-vous, hein, Michelin, 1000 emplois dans la région qui vont être supprimés. Donc toutes ces urgences-là, il faut les traiter, et ce sont les maires qui sont en première ligne. Et là, la région, elle en rajoute, elle ajoute de la crise à la crise.
On estime à peu près à 13 000 emplois menacés directement dans la région Pays de la Loire, hein, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire par les annonces de coupes budgétaires État-région. Donc on est sur un plan social massif potentiellement. Quid des... Parce que nous, un des arguments avancés pour ces coupes budgétaires, c'est de dire... Les caisses sont vides, donc en fait, quelque part, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de politique là-dedans. Est-ce qu'il y aurait d'autres des alternatives pensées par le printemps des Pays de la Loire, par l'opposition, pour mettre en place quand même des économies budgétaires sans sabrer, sans venir taper comme ça sur les acteurs de la solidarité et de la culture ?
Mais bien évidemment, et nous travaillons là-dessus parce qu'on est tous conscients qu'il faudra faire des économies, bien sûr. Le pays est dans un tel état... de déficit public, il faut évidemment faire un effort, mais il faut que cet effort soit juste. Alors, il y a des dépenses ici, à la région, qu'il faut remettre en question, remettre en cause. Le Big Bang de l'emploi. Vous savez, cette roue de fête foraine qui tourne dans les 5 départements, c'est quoi aujourd'hui la valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait hier ? Vous savez, moi j'ai été maire de Laval, j'organisais... régulièrement ce qu'on appelait les rendez-vous de l'emploi pour permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer des entreprises qui proposaient des emplois. Madame Morancet a dit « Ah, on va appeler ça autrement, on va faire ça avec le Big Bang de l'emploi. » Tout a été peint en bleu et puis, je vous disais, cette roue de fête foraine. Mais au final, pour quel résultat meilleur ? Franchement, on peut se poser la question, mais tout ça... Aujourd'hui, c'est une dépense, une grande dépense de communication pour la région. C'est près de 2 millions d'euros pour la région.
Sachant qu'on est sur 35 millions d'euros, entre 35 et 40 millions d'euros en moins pour l'ensemble de ce secteur de la solidarité, de la culture.
Absolument, mais on peut aussi ajouter d'autres exemples de dépenses qui ne sont pas aujourd'hui justifiées. Personne ne le demandait, et pourtant, Madame Morancet a voulu créer de toutes pièces un événement sportif, tout à sa gloire, le Tour cycliste régional. Et je vous le dis, hein, aucun département, aucune fédération, aucune association, aucun club ne demandait ce tour régional. Résultat, il a été créé. Et là aussi, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. On dépasse le million. On dépasse le million. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a quand même des dépenses sur lesquels il faudra revenir. Mais étrangement, dans les choix qui sont faits par Mme Morancet, eh bien, toutes ces dépenses-là, elles sont maintenues, quel qu'en soit le coût, finalement. Et qui est-ce qui, par ailleurs, fait les frais de ces arbitrages, de ces choix qu'elle a opérés ? Eh bien, c'est tous ceux qui sont derrière nous aujourd'hui, là. Ce sont les acteurs de la culture, ce sont les festivals locaux, ce sont des rendez-vous sportifs, ce sont les initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce sont aussi les jeunes et l'emploi. Parce qu'il y a un chiffre qu'on n'a pas mis beaucoup en avant, vous savez, les missions locales qui accompagnent les jeunes de moins de 25 ans dans leur recherche d'emploi et dans leur chemin d'insertion professionnelle, hein, qui les aident pour le logement, pour les transports. Eh bien, les missions locales, aujourd'hui, elles se voient privées de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Elles sont présentes dans les 5 départements, ces missions locales. Elles font un boulot formidable auprès de 43 000 jeunes de notre région. Franchement, pour elles, c'est le coup de semence. Et elles se demandent vraiment comment elles vont pouvoir continuer dans de bonnes conditions à garantir cette mission d'accompagnement auprès des plus fragiles.
Alors vous parlez de dépenses indues, ou en tout cas qui pourraient être mises en question, notamment sur le volet communication, hein, très renforcé. Je précise qu'un article de Mediacité aussi fait état de l'embauche d'un photographe à temps plein pour suivre Madame Morancet dans ses déplacements. Pour autant, même si on prend ces dépenses symboliques, on n'est peut-être pas aux 40, 50, 60 millions d'euros d'économies qui sont envisagées. Est-ce qu'il y a malgré tout des choix à faire? Est-ce que vous avez, au niveau de l'opposition, des propositions concrètes pour arriver quand même sur un certain volume, même progressif, de réduction des dépenses de la région?
Mais je le redis, pourquoi vouloir aller vers 60, 80 ou 100 millions lorsque le gouvernement n'en demande que 40? Et encore, on ne connaît pas la copie finale.
Mais même sur les 40?
Eh bien, justement, travaillons sur les 40. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel au dialogue. Et cet après-midi déjà, nous organiserons une première rencontre de travail avec les acteurs de la culture, du sport, de la solidarité, de l'environnement qui sont aujourd'hui mis en péril par les arbitrages de Madame Morancet. Et ce que nous voulons, nous, c'est pouvoir faire des propositions dans la concertation, dans le dialogue. Et vous savez, plus c'est dur, plus la situation est difficile, plus on a besoin de dialoguer pour trouver les bonnes solutions. C'est pas simple, hein, mais je vois d'autres régions, en particulier la Bretagne, qui ont dit, et c'était le président Chesnais Girard qui le disait, président de la région Bretagne, nous, ce qu'on souhaite, c'est protéger la culture et le sport. Et donc, là-dessus, on va, entre guillemets, sanctuariser ces dépenses-là parce qu'elles sont essentielles à notre vivre ensemble et aussi au rayonnement de notre région. Bah, écoutez, on peut aussi considérer, nous, qu'on est dans une démarche comparable, hein, et en tout cas, rien ne se fera sans concertation, rien ne se fera sans échange, rien ne se fera sans dialogue.
Les prochaines étapes de la mobilisation du côté des élus du Conseil régional?
Bien, nous allons d'abord rencontrer cet après-midi des acteurs de la région qui sont évidemment très inquiets, qui ont besoin de parler et de faire eux-mêmes leurs propositions. C'est un rendez-vous que notre groupe des élus du printemps des Pays de la Loire leur a donné, avec des acteurs de la culture, du sport, des élus locaux aussi qui viendront nombreux. Et puis avec ça, nous allons pouvoir nous-mêmes faire des propositions, dire sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel secteur, sur telle ou telle politique publique régionale, il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de faire mieux, avec toujours le souci de l'économie et de la bonne gestion. Il faut du sérieux budgétaire, mais il faut aussi toujours se dire qu'est-ce qui est bien pour la région, qu'est-ce qui est bien pour nos Pays de la Loire. Moi, ce que je constate, c'est que Mme Morancet, elle abandonne la région, elle brutalise les acteurs. C'est tout l'inverse qu'il faut faire aujourd'hui.
Pour vous, il y a clairement un choix, une dimension politique de se placer en national sur un discours d'ultra-libéralisme qui est à la mode?
Je ne sais pas si c'est ça. Enfin, ben, très franchement, je pense qu'elle rend service à personne et surtout pas à sa région.
...de baisser les financements destinés à la culture. Une baisse de 73%. Je souffre d'entendre ces nouvelles, d'entendre qu'on en est arrivé à ce point. À titre personnel, lorsque j'ai pu accéder à la culture et que j'y ai été éduquée, cela a été comme une renaissance. C'est ce qui m'inspire aujourd'hui.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous continuerons bien entendu à JET à suivre ces mobilisations. Le prochain rendez-vous public est annoncé pour le 5 décembre, en amont toujours du vote du 19 décembre. D'ici là, bonne soirée et bonne continuation sur JET. À suivre dans un instant, Pensée locale, le programme de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire.
Mégaphone!
le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation
sociale et citoyenne,
écologie
économie sociale et solidaire, en pays nantais et au-delà.
Mégaphone, le magazine de la rédaction de Jet.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Vous êtes en centre-ville et vous avez une vie pressante. Quel est votre premier réflexe ?
Alors, le premier réflexe, c'est de trouver un café. Donc, j'imagine que les patrons de bars doivent avoir l'habitude de voir des gens un peu pressés dire « je vais prendre un expresso » et se diriger directement vers les toilettes. Ça doit être le pipi expresso, quoi. Mais c'est payant, du coup. Et s'il n'y a pas de café dans les parages, soit, si j'ai le choix, je trouve un coin de terre pour azoter, faire pousser quelque chose. Sinon, s'il y a de l'eau, genre l'herbe, je pisse dans l'herbe. Et sinon, contre un mur, en dernier recours. Voilà, alors pour les mecs, c'est relativement simple en termes de pudeur. Bon, voilà, pour les filles, hein, oui, c'est compliqué.
Pascal,
ouais.
Si une envie pressante te vient en hypercentre, tu fais quoi ?
Ça m'arrive donc hyper rarement. Parce que j'ai tellement la hantise des toilettes publiques plus ou moins crado ou introuvables, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, que j'essaye de ne pas boire en fait, pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes. Si jamais ça m'arrive, là on est confronté au dilemme, comment dire, du cercle vicieux, c'est-à-dire on est obligé d'aller dans un bar, consommer pour utiliser les toilettes. Qu'est-ce qui se passe ? On a consommé du liquide, donc... Quelques temps plus tard, on a à nouveau envie d'aller aux toilettes. Voilà, c'est un problème.
Pour offrir une alternative gratuite en démotivant l'épicerie sauvage en ville, Thomas Erquin a eu l'idée de créer Ici Toilette.
Qu'est-ce qu'Ici Toilette ?
Ici Toilette, c'est un réseau de commerçants partenaires. Ce sont des bars, cafés, brasseries qui permettent aux gens d'utiliser les sanitaires sans consommer. Initialement, dans le process, et c'est le cas dans la majorité des villes où on a implanté notre solution, les commerçants sont rémunérés pour le service et on leur fournit en plus serviettes et protections périodiques pour permettre le dépannage de la clientèle féminine. Et tous ces commerçants, on les retrouve tous sur une application mobile qui est gratuite, qui ne prend aucune donnée personnelle, et sur lequel on va retrouver également toutes les toilettes publiques ouvertes en temps réel, les endroits où langer son bébé, mais également surtout les lieux qui sont accessibles PMR, parce qu'on veut une solution pour l'accessibilité aux sanitaires pour tous.
Le Watini, espace d'expérimentation culturelle et sociale, galerie marchande de l'économie sociale et solidaire à Nantes, est membre de ce réseau. Sarah Uvelin.
Avec notre partenariat avec La Cloche, je sais que les toilettes profitent énormément à un public très précaire, qui n'ont pas forcément accès à l'hygiène. Et donc oui, on a beaucoup de publics qui viennent au Watini sans consommer, pour se poser, pour être au chaud entre guillemets, ou pour passer un temps en sécurité. Et donc je sais que ce sont des personnes qui utilisent beaucoup nos toilettes.
J'imagine qu'il n'y aurait pas ce dispositif. Bah, vous accueilleriez de la même manière le public.
Oui, c'est vrai.
Pensée locale, un enjeu de société.
Pourquoi est-ce que les commerçants rejoignent Ici Toilette ? C'est pas pour des questions d'argent, mais c'est pour des convictions et un accueil et une bienveillance vis-à-vis des gens qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les lieux. 100% des commerçants partenaires nous disent mais je le faisais déjà. La seule condition, c'est que les gens nous demandent poliment l'accès et tout se passe très bien. Il faut savoir une chose, c'est un vrai besoin aujourd'hui. La solution par rapport à ce besoin qui est un besoin de base de la pyramide de Maslow, celui de pouvoir accéder à des sanitaires, la seule solution qu'on a, la seule réponse qui est apportée, sont les toilettes publiques. Aujourd'hui, une toilette publique automatique, ça coûte à la collectivité 30 000 euros par an. Ça consomme 17 litres d'eau potable à chaque fois qu'on passe la porte, et on est un des rares pays au monde à utiliser de l'eau potable pour nos sanitaires, et surtout, c'est là que le bât blesse, 75% des femmes ne veulent pas les utiliser, parce que les femmes ont un contact avec le mobilier urbain que n'ont pas les hommes. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes ? Elles se rendent chez des commerçants, elles prennent une consommation ou elles demandent l'accès aux sanitaires. On ne fait que graver dans le marbre un comportement que les gens ont déjà, et puis surtout, on propose une solution plus écologique. Quand vous tirez la chasse d'eau d'un de nos commerçants, vous consommez 6 litres, alors c'est toujours beaucoup, mais c'est 3 fois moins que quand vous passez la porte d'une toilette automatique.
J'ai même pu répéter et dire « oui, vous inquiétez pas, c'est gratuit, et puis tant mieux que l'on soit là ».
Laurent Messager, Café La Perle.
Et les gens sortant en disant « ah bah c'est chouette ce que vous faites », et là ils vous donnent un pourboire, oui, comme on a café, puis ils ne le boivent pas. Tiens, vous paierez un café à un autre. Ça, c'est chouette parce que c'est pari gagné, quoi. Tu as fait plaisir, tous les clients l'entendent, tu te dis « allez, on est dans un vrai service, et là on aime bien faire ce que l'on fait ».
Merci à Thomas Erquin d'Urban Service, créateur d'Ici Toilette, à Laurent Messager, Pascal Vester du Café La Perle, à Sarah Uvelin du Watini, à Bertrand pour leur libre contribution à ce reportage.
Pensée locale, un enjeu de société.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.